Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Armagnac où on se retrouve pour un moment culture sur l'art contemporain. Et aujourd'hui on va parler d'une exposition qui est encore au CAPC, le Tour du jour en 80 mondes. Elle se trouve dans les galeries du second étage du CAPC depuis fin 2020 et elle reste jusqu'au 11 décembre 2022. Tout d'abord, donc comme vous l'avez remarqué je pense, ce titre il ressemble fortement à l'œuvre de Jules Verne, en quelque sorte à l'envers. Et du coup, pour la réelle signification, c'est un emprunt au recueil de textes de Julio Cortázar qui rassemble beaucoup de textes qui traitent de ces petits riens essentiels qui font la couleur des jours et qui tracent le jardin secret de chacun. Du coup, cette exposition, elle revisite l'ensemble des œuvres majeures du CAPC sous un angle de système de représentation renouvelé du monde. Autrement dit, elle apporte un regard nouveau, contemporain et traite d'enjeux importants et actuels tels que la société de consommation dont on va reparler plus tard dans cette chronique. De plus, le titre il est assez parlant puisque les œuvres elles viennent du monde entier. C'est une véritable polyphonie, c'est-à-dire qu'elle crée des dialogues entre des artistes de générations, genres et origines géographiques diverses. Elle va de l'Iran jusqu'en Corée du Sud, mais encore en passant par le Brésil ou le Maroc. Comme beaucoup de musées en Europe, le CAPC il a construit une collection autour d'un socle majoritairement masculin et anglo-européen, affichant ainsi une vision assez restreinte et centrée sur l'Occident. Pourtant, c'est assez contradictoire parce que depuis le XVIIe, l'histoire commerciale et culturelle de Bordeaux, elle s'écrit à travers son rapport avec l'Afrique, l'Asie, mais aussi les Amériques. Et en plus, de nos jours, les mentalités évoluent. On s'ouvre de plus en plus nos esprits aux multitudes de représentations que l'art nous offre. Du coup, cette exposition, elle s'inscrit à contre-courant de la tendance passée. En effet, elle tente à créer de nouveaux récits qui sont plus souhaitables et possibles dans la continuité de cette évolution de mentalité. Il est vrai, nous sommes dans une époque où les contextes culturels, sociaux et politiques nous conditionnent et structurent l'interprétation du spectateur et même celle du spécialiste. De fait, il est nécessaire de porter un regard neuf sur ces collections publiques et celles-ci se doivent d'acter ce passage à un monde multipolaire en remettant en lumière un ensemble d'artistes dont l'importance a été minorée par une histoire occidentale de l'art pour diverses raisons comme le sexisme ou l'ethnocentrisme. Du coup, le Tour du jour en 80 mondes, c'est une réflexion, un véritable mouvement de décentrement culturel qui est essentiel parce que de nos jours, plus que jamais, il est primordial de ne pas rester borné, voire centré sur un art exclusivement masculin et occidental. Du coup, elle génère une véritable polyphonie dans le cadre de l'art et elle participe à une relecture de celui-ci qui est ouverte et vibrante. Elle se nourrit d'expositions récentes comme Modernité plurielle, qui est au Centre Pompidou, enfin qui était du coup en 2015, et qui a proposé une vision de l'art moderne, renouvelée et élargie. Cependant, elle s'en différencie par sa dérive poétique. En effet, comme je vous l'ai dit, le titre, c'est une référence directe et assumée au recueil de textes de Julio Cortázar, mais aussi au roman d'aventure de Jules Verne que l'on connaît tous et toutes, Le Tour du jour en 80 mondes. Enfin du coup non, Le Tour du monde en 80 jours, contrairement au nom de l'expo. Du coup, dans le cadre de cette expo, le CAPC il s'est associé avec le Centre National des Arts Plastiques afin de réunir une collection dense et diverse d'œuvres venant d'artistes originaires de régions extra-européennes avec une démarche singulière qui déjoue tout déterminisme. Ainsi, on ne peut pas réduire leur identité à un genre, une génération ou encore un contexte géographique déterminé. Et du coup, ce dépôt conséquent d'œuvres, il déjoue toute idée reçue et il place le spectateur dans l'inconnu. Du coup, pour illustrer cette réflexion qui peut paraître assez abstraite, on va prendre l'exemple de deux œuvres. Tout d'abord, The Shops Are Closed, de Malachi Farrell, qui est réalisé entre 1994 et 1998. Pour celles et ceux qui ont vu l'expo, celle-là, elle a dû vous marquer, puisqu'elle est très surprenante, voire déroutante esthétiquement. C'est des figures robotiques qui sont faites de tuyaux blancs qui dansent. En fait, ils sont animés par une cadence militaire stricte. Et du coup, l'œuvre, elle plonge le spectateur dans une synchronicité factice qui peut être tout aussi fascinante que perturbante. Et du coup, par ce ballet sonore aux allures militaires, l'artiste irlandaise a voulu faire référence au couvre-feu militaire lors des conflits en Irlande du Nord à la fin des années 60, et du coup, en parlant des impacts sur la vie quotidienne des citoyens, avec la fermeture des magasins, d'où le titre, qui représentait le chaos de la guerre. Ensuite, la deuxième œuvre dont j'ai voulu vous parler, c'est « On vend du vent » de Steinbeck. Cette œuvre, elle date de 1988 et elle dénonce la société de consommation et notre rapport à l'art. En effet, cet artiste israélien, il a écrit « On vend du vent » en lettres capitales et en matière vinyle sur un des murs de l'expo. Et cela réfère à l'art qui est vu comme un objet commercial, ne cherchant que le bénéfice économique ou encore la notoriété, et non plus comme un porte-parole ou une expression de soi. Du coup, le tour du jour en 80 mondes, c'est une expo qui est pour tous les goûts, même pour celles et ceux qui ne sont pas forcément mordus de l'art contemporain, parce qu'elle est vraiment dense, riche, en style, technique, artiste ou encore message. Et comme d'habitude, le CAPC, c'est gratuit avec la carte jeune et 2 euros pour le tarif étudiant. J'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.
88.1
Et merci à toi, Marine. T'as parlé du fait que l'art a été quelque chose de profondément masculin pendant des années. Aujourd'hui, quand même, on voit plus de femmes sur la scène artistique. Est-ce que vous, vous avez constaté une féminisation de l'art en général ?
Ouais.
Ouais.
Je sais pas.
Pas moi, très convaincue.
Ben, je sais pas. Je pense moi à Frida Kahlo, mais c'est pas du tout récent. Mais c'est déjà bien plus récent que, je sais pas, que la plupart des œuvres dont on a parlé. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas très calée moi.
Frida Kahlo, ouais, c'est vrai que sa carrière est plutôt très connue. Il y a notamment eu un biopic sur sa vie, un film qui était sorti, je crois, au début des années 2000. Et puis on la retrouve souvent sur les tote bags, les t-shirts. Sa tête est pas mal populaire. Elisa.
Ouais, du coup, en fait, c'est surtout que pendant très longtemps, les femmes, elles n'avaient pas forcément le droit d'avoir accès aux écoles de beaux-arts, aux académies. Notamment l'Académie Julian, elle s'est ouverte aux femmes qu'au début du XXe siècle. Donc en fait, les femmes n'étaient pas forcément formées aux beaux-arts comme les hommes pouvaient l'être. Et on a quand même des artistes femmes, notamment à la période médiévale, on a des enlumineurs, on a aussi des artistes féminines qui se sont formées toutes seules ou qui sont formées avec leurs conjoints. Mais c'est vrai que c'est à partir du XIXe où en fait les femmes, quand elles ont eu accès à ces formations-là, c'est là où en fait on a vu un développement, notamment en France, parce qu'il faut savoir que c'est pas partout pareil, sur justement ce développement en fait de l'art féminin entre guillemets. Et aujourd'hui, on a pas mal d'artistes femmes qui revendiquent un petit peu tout ça, et notamment une artiste moi que j'aime bien, c'est Anne, enfin je crois que c'est Anne Messager, qui fait de la broderie qui brode en fait des phrases. Souvent liée à des phrases un peu sexistes qu'elle a entendues, un peu dans une volonté de dénoncer, et qui utilise l'art de la broderie, qui est un art qui, pour très longtemps, en fait, était considéré comme même pas un art, entre guillemets. Donc, non seulement il y a plus de femmes, mais en plus, il y a des techniques qui étaient associées aux femmes qui deviennent art. Et ça, on le voit depuis notamment Judy Chicago et tout ça, donc... Voilà, c'est un peu ma passion, les femmes artistes, donc voilà.
Et toi, Marine, qui suis l'art artistique de près, est-ce que tu constates autant d'artistes femmes que hommes, par exemple dans les expositions que tu vas voir ou ce que tu regardes sur Internet ou dans ta vie au quotidien ?
Oui, enfin je trouve que oui, il y a de plus en plus une égalité, et que justement il y a beaucoup de luttes féministes aussi qui s'emparent de l'art. Pour avoir de la notoriété et de la place, et du coup j'aime bien l'art féminin.
Et alors pour continuer un peu sur cette question, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a toujours eu un paradoxe où maintenant les hommes comme les femmes ont un accès égal à l'éducation, mais on a l'impression que toujours à la sortie, c'est plus les hommes qui sont retenus. Par exemple, on prend cet exemple que je prends souvent. Faire des études de lettres, c'est quelque chose de très féminin. Par exemple, à Bordeaux-Montaigne, la population est très féminine. Je crois qu'on est presque à 70% d'étudiantes. Alors qu'en fait, au final, à la sortie, les gens qu'on voit qui sont médiatisés, les grands chercheurs, c'est souvent des hommes, que ce soit en littérature ou même dans la poésie. Alors que c'est marrant, la poésie, c'est associé à un truc de meuf, qu'on en parle de manière péjorative, alors que c'est souvent des hommes qui sont vus. Ou en tout cas, nous, on nous a appris ça à l'école, que c'était des hommes qui étaient des grands poètes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous trouvez que ça change, que maintenant, à l'avenir, s'il y a 70% d'étudiantes, à la sortie, il y aura aussi 70% de femmes dans l'espace public qui auront accès à ce dont elles ont droit ?
Du coup, moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que on est toujours dans un système qui est quand même patriarcal de base. Et en fait, il y a quand même des choses qui partent de l'éducation. Enfin, je ne sais pas si vous, quand vous étiez enfant, ça vous est arrivé, mais y a vraiment ce truc de care qu'on impose un peu à la femme, où en fait, la femme, on va plus l'attendre. « Ah, tu devrais être infirmière, tu devrais être professeur des écoles. » Bizarrement, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été poussées à être ingénieures, qui n'ont pas été poussées à être chercheuses, ou des choses comme ça. Et je sais qu'en tout cas, dans le domaine scientifique, c'est très présent. Il y a encore cet écart qui est vraiment très, très dense. Et en vrai, moi, j'ai une volonté quand même que les mentalités changent et qu'il y ait quand même plus de femmes chercheuses et de femmes reconnues en tant que poétesses, en tant qu'écrivaines. Et il y en a qui sont incroyables. Par exemple, en poète, il y a Cécile Coulon qui est vraiment très cool. En chercheur, j'en aurai un jour dans ma tête qui vont venir, mais pour le moment, enfin, c'est pas les premiers noms. C'est vrai que les premiers noms qui me viennent ne sont pas forcément féminins. Et je pense que c'est malheureusement un problème qui est plus large que l'université et que le fait de pousser les femmes à faire de la recherche, à faire autre chose que partir dans l'éducation, par exemple. Parce qu'en fait, si on regarde les pourcentages, il y a beaucoup de femmes qui partent dans l'éducation. Et je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus global et qui est plus lié au fait qu'on est encore dans une société patriarcale. Et voilà. Et qu'un jour, peut-être, on arrivera à démonter la plupart des stéréotypes de genre et qu'on arrivera à égaliser complètement, mais c'est pas pour tout de suite, je pense.
Elina, Marine.
Ouais, en fait, pour moi, dans l'histoire, l'art, la poésie, les lettres, c'est associé à la masculinité parce que c'était vu comme une technique, en fait, un savoir difficile à acquérir. Et maintenant, on est plus dans les lettres, c'est quelque chose de qui est pour plutôt des âmes plus sensibles, donc associées à la féminité. Et c'est plutôt, pour moi, un changement de la perception de ces domaines artistiques qui étaient d'abord associés plutôt scientifiques, dans le sens où c'était de la technique. Et puis maintenant, plus la sensibilité. Mais moi, après, c'est peut-être parce que mes parents ne m'ont pas du tout dit « tu devrais faire ça » ou voilà. Mais je trouve que si on veut si on est une femme et qu'on veut devenir chercheur, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Enfin, moi, je le ressens vraiment et ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, dans ma vie étudiante, en tout cas, je ne me pose pas la question de est-ce que j'aurai plus de chance de... Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'autocensure de la part des femmes ? Parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai constaté, alors on est d'accord ou pas d'accord, mais souvent je trouve qu'un garçon il se pose moins de questions avant de parler, de dire quelque chose, même si c'est pas forcément juste, alors que c'est vrai qu'on constate que les filles sont parfois plus en retrait ou en tout cas elles pondèrent beaucoup plus leur choix de prendre la parole, surtout si c'est un sujet important. Est-ce que vous pensez que peut-être qu'il y a des femmes qui se censurent alors qu'elles devraient pas, tout simplement?
Clairement, puis il y a aussi cette idée de sorte de plafond de verre, en fait, où il y a une limite un peu imposée aux femmes. Et aussi, je trouve qu'dans l'éducation, on n'a pas beaucoup de modèles féminins, que ce soit des scientifiques, des philosophes. Enfin, on nous apprend beaucoup de noms masculins. Et du coup, on a peut-être du mal à s'identifier, du coup, à se dire « Ouais, moi aussi, je peux. Moi aussi, j'ai autant de poids qu'un homme », ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas assez dit, je trouve.
En tout cas, aujourd'hui, si on veut retrouver un peu les mémoires oubliées, perdues des femmes, on peut aller sur Internet, on peut aller lire, on peut aller regarder des bandes dessinées. Par exemple, je pense à Pénélope Bagieux, qui a un peu remis en lumière ces femmes oubliées, qu'elles soient dans la science ou dans les arts. Donc, en tout cas, on peut se renseigner aujourd'hui en 2022, et ça, c'est le côté positif.